C'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Jusqu'à quand la cocotte minute va-t-elle siffler à Londres? On se demande comment l'explosion n'a pas encore eu lieu à la Chambre des communes, d'où Boris Johnson est ressorti haché menu cette nuit après deux nouvelles défaites. Nous serons à Londres dans un instant. Des déchetteries gratuites et nombreuses pour lutter contre les décharges sauvages. Voilà ce que le gouvernement va présenter aux entreprises du bâtiment et aux élus aujourd'hui. À la une également, et évidemment, ce nouveau round de concertation sur les retraites à Matignon, tout reste ouvert, nous dira sans doute votre invité dans 20 minutes.
Oui, il s'agit de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux également, et l'application France Inter, elle ne ferme jamais.
Dans ce journal aussi, Bernard Cazeneuve sera-t-il l'homme providentiel des socialistes? Il commence à y croire. Du hip-hop, gage d'excellence dans un lycée parisien. Et puis le portrait d'un apnéiste français qui a tout du héros du Grand Bleu.
France Inter.
God save the Queen, mais qui sauvera les Anglais et leur Brexit? Boris Johnson, que les plus durs attendaient pour sortir enfin de l'Europe, est en train de se fracasser entre les murs de Westminster, comme Theresa May avant lui. Avant-hier, il a perdu sa majorité. Hier, il a perdu son pari. Les députés n'ont pas voté la dissolution du Parlement. Pas d'élection anticipée pour le moment. À Londres, c'est Antoine Gignot qui suit un à un les épisodes du feuilleton pour France Inter.
Face à la débâcle, il affiche un air goguenard et incrédule. C'est la première fois qu'un chef de l'opposition refuse une occasion d'organiser des élections, lance Boris Johnson. Déjà battu par l'opposition à deux reprises et probablement bientôt contraint d'aller demander un report du Brexit, le Premier ministre espérait convaincre la gauche d'organiser des élections anticipées. Peine perdue, les travaillistes s'opposent au scrutin. Leur chef de file, Jeremy Corbyn, dénonce une tentative de dissoudre le Parlement pour se débarrasser des élus et accélérer en douce la sortie de l'Union européenne. Cette proposition d'élection, dit-il, ressemble un peu à la pomme offerte par la méchante sorcière à Blanche-Neige. Parce que ce qu'on nous offre, c'est le poison d'un Brexit sans aucun accord. Même discours chez les libéraux démocrates et chez les Verts, qui qualifient la tentative de Boris Johnson de mouvement désespéré et cynique, lâché par une partie des élus de la majorité. En moins de 48 heures, le Premier ministre a perdu 3 votes et une vingtaine de députés conservateurs. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et c'est désormais à la Chambre des Lords de valider un report du Brexit. Pendant ce temps-là, à Bruxelles, c'est silence radio.
Il est 8h03, à tous ceux qui font, qui ont fait ou qui vont faire des travaux, cette question.
Que deviennent le vieux bidet, les gravats, le carrelage déposé de votre logement? Hélas, il est bien possible qu'ils finissent dans la nature ou sur un coin de trottoir. C'est des charges sauvages dont on a beaucoup parlé cet été après la mort du maire de Signes dans le Var. Depuis, le gouvernement a réfléchi. La secrétaire d'État Brune Poirson recevra cet après-midi les représentants du bâtiment et des élus pour discuter, Célia Quiret, d'une possible gratuité des déchetteries pour les artisans du BTP.
La solution peut paraître magique. Si les artisans peuvent aller gratuitement à la déchetterie, alors qu'ils payent aujourd'hui pour leurs détritus, ils ne seront plus tentés par les décharges sauvages. Le projet est donc sur la table, avec une condition, les professionnels du bâtiment devront trier leurs déchets au préalable. En réalité, c'est le système qui change. L'idée du gouvernement est de créer toute une filière de collecte et de traitement de ces déchets. Il y aura donc une éco-contribution à payer sur tous les matériaux de construction. Pour le ministère de la Transition écologique, ce coût sera minime, cela ne changera rien, mais les artisans ne l'ont pas chiffré. Ensuite, selon eux, le cœur du problème, c'est surtout le manque de déchetteries professionnelles. Il n'y en a que 400 en France pour 46 millions de tonnes de déchets de chantier. Elles sont 10 fois moins nombreuses que les déchetteries classiques pour les particuliers. Et certains artisans, surtout en zone rurale, refusent de parcourir des dizaines de kilomètres pour jeter leurs déchets. Les artisans, comme les élus, demandent donc plus de déchetteries pour en avoir une à moins de 30 minutes de chaque chantier. Le gouvernement est prêt à en construire autant qu'il en faudra pour venir à bout des décharges sauvages.
Alors voilà qui est applaudi par Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, même si l'un des nœuds du problème reste entier, selon lui.
Honnêtement, par exemple, sur les gravats, on est aujourd'hui à 10 euros la tonne. Donc on voit bien que sur des petits volumes, c'est pas vraiment qu'un problème de prix. Et évidemment, il y a ceux qui, de toute façon, du moment qu'il y a pour les déchetteries publiques une demande d'identité. Il y a une traçabilité qui est demandée et tous ceux qui travaillent au noir, et malheureusement ils sont sans doute nombreux, bah, ils ne veulent pas laisser leur identité. Donc là, on sait très bien que tout ce qui génère du travail au noir génère également des déchets qui sont balancés de manière sauvage.
Le bâtiment étant l'un des secteurs qui use le plus du travail non déclaré.
Il est 8h05, deux jours de concertation sur les retraites à Matignon.
Les syndicats et le patronat défileront chez Édouard Philippe après 18 mois de travaux chez Jean-Paul Delevoye qui va continuer à s'occuper de la réforme au gouvernement. Elle ne sera bouclée qu'après ce nouveau cycle de consultation mené par le Premier ministre et le haut-commissaire en tandem, alors qu'ils n'étaient pas sur la même ligne, Yael Gauze en tout cas, jusqu'à la sortie d'Emmanuel Macron sur la durée de cotisation.
Ce tandem-là aurait pu ne jamais exister, raconte un conseiller ministériel. Début avril, le haut-commissaire met clairement sa démission dans la balance. Trop de cacophonie, selon lui, en provenance de Matignon. Édouard Philippe parle d'âge légal de départ, d'équilibre budgétaire, autant d'obstacles à l'époque pour un Delevoye à la recherche du consensus avec les syndicats. Le bébé Juppé, froid et rationnel d'un côté, le bébé Chirac, rond et romantique de l'autre, résume un cadre de la majorité. Alors ces deux-là vont-ils entrer en cohabitation? Ils ont largement appris à se connaître, tempère un conseiller de Matignon. Au printemps, ils ont passé tout leur dimanche côte à côte à recevoir tous les acteurs de la réforme. Et puis, Emmanuel Macron a sifflé la fin de la récré. Match nul, ni âge pivot, ni âge légal. Le haut-commissaire a mis de l'eau dans son vin hier sur France Bleu.
Je souhaite non plus avoir le débat français qui consiste à écraser celui qui ne pense pas comme vous, mais nourrir la controverse et s'enrichir de la différence.
Et le Premier ministre, lui, s'est montré ultra prudent hier en séminaire.
Et c'est seulement une fois que j'aurai eu cet échange que j'indiquerai la méthode et le calendrier de la réforme.
Mais en coulisses, Édouard Philippe n'en démord pas. Il faut une réforme qui soit financée, insiste l'un de ses proches. Les Français travaillent déjà plus longtemps. À certains élus, cet été, le Premier ministre a confié qu'il pourrait quitter Matignon si la réforme n'était pas assez ambitieuse.
Voilà, et cette concertation sera sortie d'un débat auquel les Français seront conviés. Lui avait disparu des radars, ou presque, depuis la fin du quinquennat Hollande. Bernard Cazeneuve, que certains socialistes verraient bien reprendre le flambeau pour 2022. Il parlera cet après-midi devant les députés et les sénateurs PS réunis à Avignon pour leur journée parlementaire. À qui veut l'entendre, l'ancien ministre de l'Intérieur dit qu'il prendra ses responsabilités s'il n'y a pas de solution. Et on a bien l'impression, Marc Potvin, qu'il commence à avancer ses pions.
Un discours à Avignon aujourd'hui, puis un autre dimanche à la fête de la Rose de Maraussan dans l'Hérault. Ça fait beaucoup pour un homme très discret ces deux dernières années. Son entourage jure qu'il s'agit d'un hasard de calendrier, mais un ancien ministre proche de François Hollande n'est pas dupe. Tout ça montre la volonté de Bernard Cazeneuve de monter au front pour lui. Il a envie d'incarner une ambition, renchérit pudiquement un de ses supporters. Un combat qui va au-delà des municipales complète un responsable de gauche. Pour l'instant, Bernard Cazeneuve pense aux idées à présenter aux Français, jure son entourage. La question de l'incarnation à la présidentielle viendra plus tard. Ça ne l'empêchera pas de se montrer encore passé ce week-end. Bernard Cazeneuve sort le mois prochain un livre sur son expérience de ministre de l'Intérieur confronté au terrorisme. Il en fera notamment la promotion dans plusieurs librairies du pays, comme un air de pré-campagne.
Imprévisible d'Orient, dont les vents se renforcent désormais à l'approche des côtes américaines. L'ouragan est repassé en catégorie 3, à moins de 200 km de Charleston en Caroline du Sud. Alors que les Bahamas commencent à rechercher leurs disparus, le bilan de Dorian là-bas est passé à 20 morts et l'ONU a dénombré 70 000 sinistrés qui ont besoin d'une aide immédiate. En Iran, le président Rouhani fait remonter la pression d'un cran en annonçant l'abandon de tous ses engagements en matière de recherche nucléaire. Un pas de plus face aux sanctions américaines et un recul par rapport aux efforts de médiation français du G7. L'Iran qui souffle le chaud et le froid en libérant par ailleurs une partie de l'équipage d'un pétrolier suédois arraisonné au mois de juillet dans le détroit d'Ormuz.
Il est 8h09 en Israël, c'est l'interminable campagne de Benjamin Netanyahou qui continue.
Avant de nouvelles élections législatives dans quelques jours, les précédentes ne lui ont pas permis de former une coalition. Le voilà donc à Hébron, c'était hier. Hébron, ville ultra sensible de Cisjordanie, divisée entre Palestiniens et colons israéliens. Des Juifs y avaient été massacrés par leurs voisins arabes il y a 90 ans. C'est cela qu'est venu commémorer le Premier ministre. Reportage signé Frédéric Mettezo.
Un chapiteau au pied du tombeau des patriarches. La cérémonie se déroule en contrebas de ce lieu sacré pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Le dispositif de sécurité est hors norme dans cette ville où 800 juifs vivent à côté de 200 000 arabes. Moshe, très ému d'être là.
Mon grand-père est l'un des martyrs d'Hébron. Il a été poignardé, torturé, tué. Je suis ici avec l'espoir que M. Netanyahou tiendra sa promesse que les Juifs puissent se rendre librement ici.
Promesse tenue, Netanyahou proclame « Nous resterons pour l'éternité ». C'est l'évidence même pour Rebecca.
Hébron est la ville la plus importante pour le peuple juif. Nos pères, Abraham, Isaac, Jacob et nos mères sont ici, dans le tombeau. L'histoire de mon peuple est ici.
Après le recueillement, le Premier ministre s'est offert un bain de foule de candidats. Les élections sont dans 12 jours et Benjamin Netanyahou a besoin des voix des électeurs les plus radicaux. Hébron, Frédéric Mettezo, France Inter.
Il n'y a pas que Carlos Ghosn dont on apprend que le procès commencera au Japon en mars 2020. Il n'y a pas que lui qui a des soucis. Le directeur général de Nissan en a aussi, qui admet avoir été trop payé par rapport à ce à quoi il avait droit. Il s'est excusé et a promis de rendre l'équivalent de 400 000 euros à l'entreprise. Quand le hip-hop entre au lycée pour motiver les élèves dans leur scolarité. Nous sommes à Turgot, à Paris, l'un des grands lycées de la capitale, où une classe ambition scolaire, danse urbaine, est née il y a 4 ans. La promotion de 16 élèves permet au lycée d'intégrer des jeunes de banlieue dans un cursus scolaire d'excellence, couronné de 100% de réussite au bac. Béatrice Duguet.
Maxime ne se fait pas prier pour faire écouter les morceaux sur lesquels il aime danser.
Même si je parle là-dessus.
Le corps de ce jeune parisien filiforme s'anime quasiment dès les premiers sons. Maxime a 17 ans en terminale informatique aujourd'hui. À son arrivée en seconde, il était plutôt inhibé et démotivé.
En fait, la danse, c'était le seul moment où les gens me voyaient vraiment. Et ici, c'est comme si je pouvais exploser, en fait. Je suis vraiment décomplexé même, puisque j'ai appris à prendre confiance en moi et à prendre confiance envers les autres aussi.
Parce que les autres, ils aident, soutien scolaire, encadrement fort, bienveillance envers ceux qui sont moins favorisés. C'est précisément le credo du lycée de Turgot et de son proviseur, Christophe Baran.
On a beau dire liberté, égalité, fraternité, vous comprenez bien que dans certains quartiers, dire je vais aller dans un grand lycée parisien, c'est inconcevable. On se bride soi-même. Donc toute la démarche, c'est d'expliquer qu'ils ont tous ce potentiel pour aller vers l'excellence. L'idée, c'est qu'ils se disent pourquoi pas moi ?
Vraiment soutenu au quotidien, même hors cours. Ici, on s'intéresse plus à tout, puisqu'on s'intéresse à nous avant tout.
Plus sociable, plus motivé dans le domaine scolaire, plus cultivé aussi. Maxime danse sur tout aujourd'hui.
Le classique même, c'est des musiques magnifiques en fait.
La danse reste une option, une carotte en fait, dit David Berrillon, le professeur de PS à l'origine du hip-hop à Turgot.
Si en effet, on a l'impression qu'ils ne tiennent pas la route scolairement, on réduit les heures en option, pour vraiment que les élèves s'accrochent sur le scolaire et ensuite qu'ils puissent revenir.
Les études d'abord, répète Maxime en écho de son professeur, même si dans un coin de sa tête, vivre de la danse est son but ultime.
À l'US Open de tennis, l'image de la nuit, c'est celle de Gaël Monfils allongé par terre après une glissade. Le Français a laissé passer sa chance en quart de finale sous les parpaings de l'Italien Berrettini, moins fort pourtant sur le papier, mais c'est lui qui l'emporte au terme d'un match de 4 heures. En 5-7, Berrettini affrontera Nadal en demi-finale. Enfin, c'est un peu le grand bleu ou l'histoire d'un homme à part qui défie les profondeurs. Voici Arnaud Gérald, 23 ans, champion du monde, qui remet son titre en jeu en ce moment au championnat de Villefranche-sur-Mer. Comme Jean-Marc Barre dans le film, c'est dans l'eau qu'il se sent le mieux. Et c'est l'apnée qui, dit-il, l'a sauvé d'une enfance difficile. Jérôme Val l'a rencontré.
L'histoire fusionnelle d'Arnaud Gérald avec l'eau aurait pu se terminer en drame quand il était encore bébé.
Je marche au bord de la piscine et il y a ma mère qui était en le linge. Et là, je profite du moment où elle ne me regarde pas pour plonger dans la piscine. Sauf qu'à un an, je ne sais pas, toujours pas nager et j'ai la couche qui se remplit d'eau. J'ai failli me noyer, bien sûr.
L'eau, c'est aussi ce qui l'a sauvé. Quand Arnaud Gérald rencontre de graves difficultés scolaires, dyslexique, dyspraxique, l'adolescent se sent étouffé et c'est en plongeant qu'il retrouve goût à la vie.
Je redouble, mes profs me disaient « mais tu feras rien de ta vie ». Mais en découvrant l'apnée, je me suis découvert moi-même. C'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer.
Aujourd'hui, le Marseillais est l'un des meilleurs apnéistes. En mai dernier, il a atteint 108 mètres de profondeur, record du monde, à la seule force de ses bras et avec des palmes. Un exercice dans les profondeurs qui nécessite d'être bien dans sa tête.
Quand on est au fond, on est complètement dans le bleu. Comme on n'a rien à regarder en face, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est là où la musique va être très intéressante. Ça pouvait être du jazz, en ce moment c'est du Sigur Rós. Ça démultiplie les sensations dans la plongée.
À 23 ans, Arnaud Gérald est en passe de réaliser le rêve de l'enfant tourmenté qu'il était, devenir l'homme le plus profond du monde.
C'est un peu vous, ça, l'homme le plus profond du monde.
Vous avez bon fond, Florence Paracuelos. Ah, c'est un festival. Hein. Merci beaucoup, Florence, pour le journal.